Il est 7h.
Renforcer les mesures le week-end, ça ne semble pas être la mesure la plus efficace et peut-être pas la plus pertinente pour contrôler mieux l'épidémie.
Un pari risqué, dit cet épidémiologiste. Et encore, le confinement le week-end ne devrait concerner que le Pas-de-Calais. Les autres départements sous surveillance y échappent. Comment le comprendre ? On détaille la carte de l'épidémie. Les résidents des EHPAD, eux, vont pouvoir sortir de nouveau. Le Conseil d'État leur donne raison. Et si les visites en chambre redevenaient possibles pour nos aînés vaccinés ? Le Capitole de Washington, aux États-Unis, à nouveau sous haute surveillance face au virus du complotisme. Et puis, plus de 300 millions de livres vendus dans le monde. L'auteur John Grisham est de retour. Son dernier polar a enchanté Nicolas Clarao. Après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Nous parlerons automobile, comment Carlos Tavares a fait de PSA l'un des constructeurs aujourd'hui les plus rentables de la planète, malgré la crise.
Avant le regard international de Vincent Hervouette, et puis à 7h20, l'édito sport de Virginie Fulpin qui nous rejoint.
Elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal. Voilà ce que pense le président de la Fédération Française de Football, des tensions dans l'équipe de France féminine. Et moi, ce genre de remarque, bah, ça me les fait dresser sur la tête, les cheveux.
Et enfin, nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec vous, Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et d'abord cette question. Sachant qu'il y a chaque année environ 750 000 naissances en France, que la SNCF estime à 2 ou 3 les heureux événements qui surviennent à bord de ces trains, ça fait 0,0004% des bébés. Quel était le pourcentage de chances pour que cette maman de 27 ans accouche pour la deuxième fois dans un TER arrivant en gare de Sens, dans Lyon ?
Oui, c'est assez faible, je pense.
Et quelle probabilité pour qu'elle tombe, Mathieu, sur le même contrôleur qui joue à nouveau les sages-femmes. Il s'appelle Brice Lanvin et il raconte cette incroyable coïncidence quand il vient en aide à une femme qui perd les os. C'était mardi après-midi.
Au début, je l'ai questionné pour savoir si les contractions étaient rapprochées, si elle avait mal, si elle était à terme. Le fait que d'un seul coup, elle me dise « je crois que je suis en train de perdre les os », j'ai fait un flashback de 2 ans. Je me suis dit « rebelote ». En regardant bien son visage, je lui dis « mais ça vous est déjà arrivé cette situation-là dans un train ?» Et elle me dit « bah oui, il y a environ 2 ans, les pompiers étaient venus me chercher en gare de Montreux ». Je lui dis « bah je me rappelle bien puisque c'était moi le contrôleur qui avait déjà fait appel aux pompiers, même si c'était une petite fille ». Elle me dit « c'est pas possible, c'est une blague. » Et j'ai tiré un petit peu mon masque pour lui faire voir mon visage. Et donc elle m'a dit « ah oui, 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 c'était bien vous et que c'était un garçon cette fois-ci ». C'est le SAMU qui est arrivé en premier. Le médecin du SAMU était un petit peu surprise. Et puis elle me dit « c'est pas possible, vous allez finir parrain du 4e et du 5e enfant ».
Voilà, il peut passer son diplôme d'obstétricien à Brice Lanvin. Il répondait à Zoé Pallier.
À la une donc, le soulagement ce matin pour les résidents des EHPAD.
Ils vont à nouveau pouvoir sortir, acheter leur pain ou leur journal. Ça faisait des semaines qu'ils le réclamaient puisqu'ils sont nombreux à être vaccinés. Le Conseil d'État vient de leur donner raison. Il suspend l'interdiction des sorties. Mesure jugée disproportionnée, Johanna Chabas.
Oui, le Conseil d'État décrit même cette interdiction comme un confinement imposé avec de lourdes conséquences sur l'état physique et mental des résidents. Et puis surtout, il estime que la majorité des patients ont été vaccinés, un peu plus de 80%, et donc qu'ils sont protégés, qu'ils peuvent à nouveau sortir. Un soulagement pour Yann Reboulot, président du groupe d'EHPAD Philogéris. Il espère même que cette décision amènera d'autres allègements.
La décision, elle ne porte que sur cette interdiction de sortie, mais l'argument qui est développé par le Conseil d'État laisse à penser que s'il était saisi sur d'autres mesures restrictives, et je pense en particulier aux visites en chambre des résidents, le Conseil d'État pourrait prendre la même position que celle qu'il a prise sur l'interdiction de sortie des résidents.
Le Conseil d'État estime maintenant que les restrictions doivent être décidées au cas par les directeurs d'EHPAD, selon le taux de vaccination dans leur établissement ou encore la progression de l'épidémie dans leur région. Demain, la ministre chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, réunit des familles, des professionnels et des juristes pour réfléchir à de nouvelles recommandations dans les EHPAD.
Johanna Chabas, les habitants du Pas-de-Calais, eux, risquent fort d'être reconfinés les prochains week-ends. Jean Castex devrait l'annoncer ce soir, conférence de presse à 18h, mais aucun autre département jugé à risque ne devrait connaître le même sort.
Sursis prolongé pour l'Île-de-France, donc, entre autres, bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Comment le comprendre ? La situation est vraiment plus tendue près d'Arras ?
Oui, le Pas-de-Calais inquiète particulièrement le gouvernement. Avec un taux d'incidence de 406 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours, ce département est bien au-dessus du seuil d'alerte maximal fixé à 250 par les autorités sanitaires. En revanche, pas de reconfinement le week-end pour la Seine-Saint-Denis. Pourtant, là aussi, le taux d'incidence est très élevé, au-dessus de 400. Les 8 départements de l'Île-de-France sont d'ailleurs tous encore en zone rouge. Le Val-de-Marne et le Val-d'Oise ont même vu une augmentation de 20% du nombre de cas en une semaine. Dans cette carte de France de l'épidémie, il y a aussi les départements qui n'étaient pas encore placés sous surveillance, mais qui enregistrent un rebond de la circulation du virus. C'est le cas notamment de la Corrèze, l'Aube ou encore les Hautes-Alpes, un territoire qui bascule en zone rouge avec 280 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Enfin, les Alpes-Maritimes restent le département le plus touché avec un taux d'incidence de 563. Mais depuis quelques jours, c'est un signe encourageant. Le nombre de contaminations baisse très légèrement.
En effet, merci à vous Victor Delande. Et dans ces autres départements, les centres commerciaux de plus de 5000 mètres carrés pourraient fermer. Les représentants du secteur seront reçus tout à l'heure à Bercy.
Tandis qu'en Allemagne, Angela Merkel desserre l'étau sous la pression des Länder.
Déconfinement progressif, les réunions entre deux foyers seront à nouveau possibles la semaine prochaine outre-Rhin, dans la limite de 5 personnes.
7h06 sur Europe 1. Au volet judiciaire, Nicolas Sarkozy poursuit son combat dans les médias.
Après le Figaro hier matin, le 20h de TF1 hier soir, pour dénoncer toujours un acharnement après sa condamnation à un an de prison ferme pour corruption. Aurélie Herbemont.
Je suis habitué à subir ce harcèlement depuis 10 ans.
Condamné par le tribunal, c'est à l'opinion publique que Nicolas Sarkozy fait appel.
Je suis venu dire aux Français, je ne baisserai pas la tête parce qu'on me reproche des faits que je n'ai pas commis. C'est une injustice.
L'ancien président, animé par une colère froide, assure respecter l'institution judiciaire, mais glisse que certains magistrats perdent tout sens commun dès qu'il s'agit de lui.
Je demande simplement s'il est normal d'être condamné à 3 ans de prison quand il n'y a pas un centime, pas une preuve, pas un avantage.
C'est pourtant grâce aux écoutes que les juges ont conclu à l'existence d'un pacte de corruption. Nicolas Sarkozy, à nouveau attendu au tribunal dans 15 jours pour l'affaire Big Malion, une injustice supplémentaire à ses yeux. Quant à la politique, il martèle avoir tourné la page, même s'il faudra compter sur son avis pour la présidentielle.
Je dirai quand je connaîtrai les candidats, celui ou celle que je soutiens, et je m'engagerai à ce moment-là.
De quoi donner des sueurs froides à LR où une crainte existe, qu'il finisse par soutenir Emmanuel Macron.
Édouard Balladur et François Léotard seront eux fixés ce matin sur leur sort dans l'affaire Karachi. La Cour de justice de la République rendra son jugement. 1 an et 2 ans de prison avec sursis ont été requis respectivement contre l'ancien Premier ministre et son ministre de la Défense, soupçonnés d'avoir financé illégalement la campagne présidentielle de 1995.
Et justement, en cas de condamnation, les remises de peine systématiques vont-elles être supprimées pour les détenus ?
C'est l'un des souhaits du ministre de la Justice qui a commencé à esquisser hier son futur projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Éric Dupond-Moretti veut filmer les procès pour diffusion une fois qu'ils seront terminés, réformer les enquêtes préliminaires et donc, Marion Dubreuil, clarifier aussi le système qui fait que de nombreux condamnés aujourd'hui ne purgent pas leur peine jusqu'au bout.
Oui, c'est un système qui repose aujourd'hui sur 2 mécanismes. Il y a d'une part les crédits automatiques de réduction de peine, ceux que le garde des Sceaux veut supprimer. Ils permettent par exemple à un détenu condamné à 1 an de prison de n'exécuter que 9 mois de détention sous réserve de bonne conduite. La moindre incartade peut faire sauter ce crédit. Et il y a les réductions de peine supplémentaires pour récompenser les efforts de réinsertion, la scolarité, le travail, une formation. Encore faut-il, nous explique l'Observatoire international des prisons, que l'établissement pénitentiaire propose des emplois ou même des cours. Le détenu peut alors obtenir devant un juge jusqu'à 3 mois de réduction de peine par année de prison. Les deux dispositifs sont aujourd'hui cumulatifs. Le garde des Sceaux voudrait un système de remise de peine exclusivement basé sur les efforts des détenus, sans automaticité. Mais il n'a pas encore précisé quel serait le nombre de mois de réduction de peine auquel un détenu pourrait prétendre par année de prison, avec le risque de nourrir la surpopulation carcérale.
Marion Dubreuil du service police Justice d'Europe 1.
En Birmanie, journée la plus sanglante depuis le début de la répression il y a un mois.
38 personnes tuées hier par l'armée dans des manifestations contre le coup d'État. Emmanuel Macron appelle à mettre immédiatement un terme à ces exactions militaires. Alors qu'aux États-Unis, on craint de revivre ces scènes. Sécurité renforcée devant le Capitole à Washington, 2 mois après l'invasion qui avait fait 5 morts début janvier. On rejoint sur place Alexis Guilleux. Bonjour Alexis.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, la police américaine dit avoir reçu des informations sur un nouveau projet de milice d'investir les lieux. Aujourd'hui, le 4 mars, expliquez-nous pourquoi.
Le 4 mars, en fait, c'est une date très répandue dans la sphère complotiste QAnon, nommée le jour de la vraie investiture, et beaucoup pensent que Donald Trump sera réellement investi aujourd'hui. C'est une référence historique, hein, puisque jusqu'en 1933, les présidents américains prêtaient serment le 4 mars. En tout cas, la menace est prise très au sérieux puisque la Chambre des représentants a décidé d'annuler sa session aujourd'hui. Les élus ne seront pas dans le bâtiment. Plusieurs d'entre eux ont témoigné du traumatisme vécu début janvier quand ils ont dû se cacher alors que les manifestants étaient entrés dans le Capitole. La sécurité, elle est au cœur des débats cette semaine au Sénat avec des auditions de plusieurs responsables pour mieux comprendre les failles qui ont mené à l'échec du 6 janvier. Mardi, devant les sénateurs, le patron du FBI a même comparé le terrorisme intérieur américain à une métastase qui n'est pas prête de disparaître.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
L'écrivain John Grisham sort un nouveau livre cette semaine, ça s'appelle Les Oubliés.
John Grisham, 300 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Et Nicolas Carreau, il y a des chances pour que ce nouvel ouvrage aux éditions Lattès fasse lui aussi un carton.
Comme toujours, chez Grisham, le roman s'ouvre sur une bonne gifle au lecteur. On pénètre dans le couloir de la mort avec l'avocat Cullen Post. Son client entame son dernier repas, un steak frites. Mais Cullen Post est confiant, il a déposé une requête pour reporter l'exécution. Et comme prévu, quelques minutes avant l'heure fatidique, le téléphone sonne. Son client est sauvé. Pour le moment. Cullen Post, l'avocat, est un spécialiste des causes désespérées. Il travaille pour une association, les Anges Gardiens, qui s'empare de vieilles affaires mal jugées et libère les innocents qui croupissent en prison. C'est toujours long et compliqué, mais cette fois, Cullen Post va même risquer sa vie pour défendre son nouveau client, Quincy Miller, accusé à tort d'avoir tué un homme 21 ans plus tôt en Floride. Un grand Grisham dans la lignée de ses meilleurs polars judiciaires.
Merci Nicolas Carreau.
Et merci à vous Théo, c'était le journal de 7h. Et justement, l'immense John Grisham sera l'invité exceptionnel d'Europe 1 ce matin, je le souligne, l'occasion de la sortie de ce livre, Les Oubliés. C'est l'occasion avec lui de parler des États-Unis, de la société américaine, de ses divisions. C'est l'auteur d'immenses succès, la firme, l'affaire Pélican. Et c'est l'événement ce matin, l'écrivain aux 300 millions de livres vendus, John Grisham, dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40.
Europe 1, Mathieu Béliard.